Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025. Après la séance stressante de mardi, on croyait sincèrement que ça pouvait rapidement dégénérer. On sentait la méfiance dans les dires des intervenants, ce qui faisait peur depuis des mois, remontait enfin à la surface et la détresse du marché obligataire rajoutait une couche de peur sur le gâteau. Mais comme on sait que quand on sait que ça va baisser, on ne baisse pas, Wall Street a trouvé son super-héros. Google a échappé au glaive de la justice et ne vendra pas Chrome. Le titre s'est envolé de 9% et Apple a suivi le mouvement. Et pour une fois, c'est pas Nvidia qui a sauvé le monde et les deux compères du jour ont bien masqué le reste du marché qui lui restait quand même bien rouge. Alors oui, si on regarde les gros indices, le S&P 500 prend 0,5%, le Nasdaq plus 1%. Mais si on plonge un peu sous la surface, dans les entrailles du marché, c'est pas exactement de la joie et du bonheur. En vrai, c'est un défilé de perdants avec la majorité des actions en baisse. On a eu droit à la grande illusion façon David Copperfield. On prend deux mastodontes comme Alphabet et Apple. On package une belle histoire qui finit bien à la fin et hop, tout le monde a l'impression que le marché est en pleine santé, sauf que rien n'est réglé et que les problèmes qui nous faisaient paniquer mardi sont encore bien présents. Et ce n'est pas l'annonce made in Google qui va régler les craintes du marché obligataire les inquiétudes sous-jacentes. Mais hier, c'était pas le sujet. Le meilleur moyen de juger la santé globale du marché, c'est de se concentrer sur le Dow Jones. Alors oui, il n'y a que 30 titres dedans, mais il n'y a pas Google dedans. Et quand on voit sa performance hier, on voit bien que sans Google, on ne serait pas là où nous sommes ce matin. C'est pas grave, mais il faut quand même comprendre que le rebond d'hier n'a pas été déclenché par un rachat basé sur des fondamentaux qui remettent en question les craintes de mardi, mais plutôt sur un médicament placebo qui aura eu le mérite de détourner l'attention de certains problèmes économiques que l'on qualifiera de persistant. Et d'ailleurs, on notera quand même, à propos du Dow Jones, qu'Apple, qui, elle, est dans l'indice, y est pondéré par le prix de l'action et non par sa capitalisation. En gros, Sherwin-Williams, qui vend de la peinture ou l'assureur Travelers, pèse plus qu'Apple dans l'indice. L'anecdote est savoureuse, mais à la fin, on retiendra quand même qu'hier, c'était la fête au village, si on regarde de loin, mais en fait, c'était de loin, pas la fête au village, de près. Le marché a donc célébré Alphabet, record historique, 9% de hausse et une claque donnée à tous ceux qui rêvaient de voir Google se faire démanteler. Et Apple a encaissé son petit bonus. Merci pour les 20 milliards de chèques annuels de Google. Ça fait toujours plaisir pour arrondir les fins de mois. On pourrait presque croire que l'économie américaine repose uniquement sur le fait que Google reste le moteur par défaut de votre iPhone. C'est un raccourci un peu simpliste, mais hier, c'est ce qui faisait monter le marché. Et pendant que les actions faisaient du yo-yo, les obligations respiraient un peu, le 10 ans est retombé à 4,21, le 2 ans à 3,61, et tout ça grâce aux chiffres économiques d'hier. Le rapport des JOLTS sur les offres d'emploi est sorti plus faible que prévu, et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour Wall Street qui veut que la Fed baisse les taux, mais c'est une mauvaise nouvelle pour Main Street parce que ça veut dire qu'il y a moins d'offres d'emploi. En résumé, le marché s'est dit « Super, les chiffres de l'emploi sont dégueulasses. Powell va donc vraiment baisser les taux le 17 septembre et ensuite il pourra même recommencer le mois prochain. » Résultat, on achète des actions, même si on sait très bien qu'en dehors des deux géants de la tech qui dépassaient le marché d'une tête hier, le reste des boîtes galèrent à faire passer leur hausse de prix causée par les tarifs de Trump. Mais on ne va pas pinailler, on ne va pas se montrer plus négatif et en mode plantigrade non plus, plus qu'il n'en faut. L'important, c'est de sauver le narratif. Hier, le S&P 500 a confirmé que la moyenne mobile des 50 jours fait toujours office de barrage. Et il sera toujours temps de revenir sur la panique du marché obligataire dans quelques jours ou dans quelques heures. À Paris, le CAC 40 s'est payé un rebond 0,84% porté par la tech. Les investisseurs se sont dit que si Google échappe au peloton d'exécution Capgemini, Schneider et Legrand, qui bénéficient du business des géants de la tech, devraient pouvoir dormir plutôt tranquille, sans compter que le rapport des JOLTS, encore lui, renforce également les chances d'une baisse des taux aux États-Unis, ce qui a permis à tout le monde de retrouver un peu d'appétit au risque, même si François Bayrou est toujours Premier ministre et que lundi prochain, ce sera toujours compliqué. Mais ne rêvons pas trop, les taux longs français restent perchés. Le 30 ans flirtait encore avec les niveaux dignes de 2011 et à Francfort, le DAX a tenté un rebond de 0,46% mais n'a même pas réussi à repasser au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Encore entre les droits de douane qui continuent de peser sur le moral, la guerre en Ukraine qui s'éternise, qui permet de vendre des armes, d'accord, mais qui s'éternise quand même, une politique monétaire totalement illisible et qui ne porte pas ses fruits, et une France qui carbure au déficit en plongeant vers l'instabilité de la semaine prochaine, les investisseurs ont franchement de quoi avoir la migraine et de pas être plus motivés que ça. Les risques sont désormais regardés à la loupe et les valorisations qui paraissaient hier encore normales sont aujourd'hui disséquées comme la dinde à Thanksgiving. La vraie question est de savoir à quel niveau les investisseurs vont oser recharger le bateau. L'Asie s'est réveillée plutôt de bonne humeur ce matin. La région est plus ou moins dans le sillage de New York pendant que tout le monde se convainc que la Fed va enfin baisser les taux en septembre. Oui, Powell, il avait dit attention à l'inflation, mais là, vu les chiffres de pourri de l'emploi, même ses lieutenants commencent à préparer le terrain. Waller l'a déjà répété hier, la Fed baissera les taux en septembre. Bon, Waller, c'est le trade de la Fed qui cire les pompes de Trump. Mais c'est bien quand même. Résultat, les futurs sont en hausse. Le Japon s'envole de près de 1,5%. Par contre, il y a la Chine qui est un peu à contre-courant, comme souvent d'ailleurs. Pékin réfléchit à calmer le délire boursier avec des nouvelles restrictions sur la spéculation, ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que ça fait des mois qu'ils disent vouloir sauver l'économie et les bourses locales à coup d'injections monétaires tout azimut. Et dès que ça commence à fonctionner, bam ! On veut freiner les marchés incompréhensibles. Du coup, Shanghai se prend 2% dans les dents. Hong Kong, 1,2%. Les stars de l'IA locale se dégonflent. Cambricon perd 9%. Les fabricants de puces s'écroulent de 4 à 5%. Et même les biotech s'y mettent. Ajoutez ça à BYD qui révise à la baisse ses objectifs de vente et c'est la soupe à la grimace. Bref, après le rallye d'août à plus 1200 milliards, il fallait quand même bien que ça prenne un peu les profits. Mais là, c'est limite pénible. En conclusion, l'Asie danse sur la musique de la Fed, sauf la Chine qui préfère casser l'ambiance en mettant un gros coup de règle sur les doigts des méchants et vils spéculateurs. Du côté du reste, le pétrole fait marche arrière après avoir tapé les 65$ et la moyenne des 50 jours. Tout le monde attend le grand rendez-vous du week-end avec l'OPEP+, histoire de savoir si les producteurs vont continuer à serrer le robinet ou le desserrer. Certains qui sont peut-être mieux informés que les autres estiment que ça pourrait éventuellement peut-être faire penser à réduire les coupes, mais bon, pour l'instant, ça reste du peut-être ou peut-être pas. En attendant, on va scruter le rapport de l'EIA ce soir. On s'attend à une troisième baisse consécutive des stocks US, avec aussi moins d'essence et de diesel. Le WTI est à 63,52, l'or est à 3588, le Bitcoin à 110 700 et le rendement du 10 ans est à 4,22 parce que Powell, il va baisser les taux. Et pendant que Google et Apple vivaient leur meilleure vie, hier, Ray Dalio, le gourou à la semi-retraite, ex-patron de Bridgewater, est revenu nous faire son numéro préféré, un numéro qui se nomme « Le monde va s'écrouler ». Et je vais vous dire pourquoi. Cette fois, son concept, c'est l'infarctus économique, pas une crise, pas un ralentissement, non, un infarctus. Dalio, c'est Dr House avec un Bloomberg à la place d'une canne. Selon lui, les USA sont en train de s'approcher des urgences de l'hôpital le plus proche. La dette publique explose, les paiements d'intérêt atteignent déjà 1000 milliards par an et il y a 9000 milliards à refinancer cette année. Imaginez un ménage qui doit renouveler tous ses crédits de consommation d'un seul coup, d'un seul, sauf que là, c'est le trésor américain qui serait censé le faire. Résultat, les investisseurs étrangers commencent à lâcher les treasuries, on en parlait hier, et avant-hier même, et à acheter de l'or. Ajoutez à ça le Bitcoin qui, comme toujours, profite du chaos pour se la jouer valeur refuge du futur, et vous avez la recette d'un cocktail explosif. Mais Dalio ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi que Trump, si Trump continue à vouloir prendre d'assaut la Fed et environ les gouverneurs qui lui déplacent pour y installer ses hommes de main, le marché obligataire risque de ne plus croire à l'indépendance de la Banque centrale, pour autant qu'il y croie encore. Et si plus personne ne croit que les taux sont naturels, alors le dollar ne vaut pas plus que les billets de votre Monopoly qui est rangé dans l'armoire du salon. Évidemment, Dalio est toujours un peu dans l'exagération dramatique ou mélodramatique, mais quelque part, son alerte tombe au bon moment, pendant que Wall Street fait justement semblant de planer grâce à Google et Apple. La réalité, c'est que la dette US est une bombe à retardement. Et cette bombe-là, elle ne va pas se régler en silence dans l'arrière-salle d'un restaurant étoilé. Ça risque plus de ressembler à une boucherie qui a été interdite d'exercer par les services sanitaires. On notera aussi que Salesforce a publié des résultats solides qui dépassaient les attentes sur tous les plans. Mais les prévisions ont déçu, notamment sur la croissance des ventes et du carnet de commandes. Le titre a chuté de 6% after close et reste en baisse de 30% par rapport à son sommet de décembre. Les investisseurs s'inquiètent surtout de la fin de l'hypercroissance. Les ventes sont en hausse de 8,7% seulement et du risque lié à l'IA. Alors pour rassurer, Salesforce mise sur des rachats d'actions massifs, 50 milliards autorisés et le développement d'agents IA. Figma a publié ses premiers résultats depuis son IPO, croissance de 41% du chiffre d'affaires à 240 49,6 milliards. Mais en dessous des attentes, le bénéfice est quasi nul, 846 000 $, alors que Wall Street attendait 9 cents par action. Le titre a plongé 10% après l'annonce. Les analystes restent partagés. 4 achats, 7 neutres. Analystes qui sont freinés par une valorisation jugée délirante, puisque ça se traite quand même à 200 fois les bénéfices attendus. Beaucoup estiment que le titre a trop profité de l'euphorie post-IPO et qu'il faudra un point d'entrée plus bas. Et histoire de chauffer encore un peu plus la salle avant les chiffres de l'emploi, ConocoPhillips va supprimer 20 à 25% de ses effectifs mondiaux d'ici fin 2025. Soit jusqu'à 3000 postes. L'action a chuté de 4,4% sur la nouvelle, pour une fois qu'une action chute parce qu'il licencie des gens, pénalisée aussi par les rumeurs d'une hausse de production de l'OPEP. Le secteur pétrolier multiplie les licenciements actuellement après des acquisitions coûteuses. Côté chiffres du jour, il y aura le CPI en Suisse, mais ça ne devrait pas trop provoquer de séisme économique dans la planète finance. Puis ensuite, il y aura les chiffres de l'emploi ADP qui sont, je le répète, pour la millième fois dans cette chronique, l'antichambre des NFP de demain. Même si avec le temps, on s'est rendu compte que c'était du pipeau. Nous aurons aussi le trade balance américain, les jobless claims, le PMI composite, le PMI des services et le PMI non manufacturier. Il y aura aussi les inventaires pétroliers. Mais une chose est sûre, on devrait forcément trouver un truc qui justifierait une baisse des taux en septembre. Et si on ne trouve pas, on l'inventera. Hier, Wall Street a donné une masterclass. 2 actions qui explosent à la hausse suffisent à masquer la misère du reste du marché. L'Europe fait semblant d'y croire. L'Asie attend de voir. Et Dalio annonce l'apocalypse. Jusque-là, tout va bien. Excellente journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter d'investir.ch. Et on se voit demain.